quelque chose qu'elle ne pourra pas.
Et puis, non, c'était trop explicite aussi. Donc, finalement, on est revenu à Secret Défense, qui avait l'avantage d'être plus mystérieux et plus...
Moi, je trouve que le...
Moi raconter l'histoire... non, pas l'histoire, ça racontait pas l'histoire non plus, mais donner trop un mode d'emploi.
Moi, je trouve que les titres des films souvent contiennent le sujet, et là, je trouve que Secret Défense va comme un gant à Secret Défense, quoi. On peut pas dire mieux.
Oui, mais il y a un petit décalage quand même. Moi, j'aime bien qu'il y ait un décalage, qu'à la fois il y ait comme au bas fragile, oui. Comme souvent la bande des quatre, c'était également un titre oui. Décalé. Enfin, j'aime bien voilà quand on oui. Prend une expression toute faite et qu'on lui donne une autre signification.
Oui. Il y a un jeu d'écart.
Voilà, qu'il y a du jeu justement, comme on dit, il y a du jeu.
Mais je trouve qu'il y a du jeu dans Secret Défense.
Oui, j'espère oui. Qu'il y en a quand même si c'est un film grave, j'espère qu'il y a du jeu. C'est ça qui me navre quand les gens disent qu'ils sont embêtés. Bon, ben, c'est qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait du jeu, non, pas dans le sens qu'on doit rire. C'est pas le jeu, c'est pas forcément oui. Le jeu, ça peut être justement, on dit un jeu dramatique. Oui. Et pour moi, c'est presque la base de tout, la clé de tout. Moi, j'aime voir des films, puisque je continue à aller en voir pas mal. J'aime voir un film quand, justement, j'ai le sentiment que c'est pas... qu'il y a, en effet, du jeu entre les principes du film et ce qui est en train de se passer sur l'écran. Que c'est pas le décalque d'un plan... Un blueprint, comme disait Renoir, qui avait la haine du blueprint. Il disait, le blueprint, voilà l'ennemi. Et je suis tout à fait...
Je trouve qu'en plus, il y a une part de liberté. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il y a du jeu comme ça, ça devient passionnant parce que c'est en fait assez... C'est stimulant pour le spectateur. Enfin, moi, c'est ce que je ressens.
Oui, mais enfin, en même temps, je n'ai pas tout à fait réussi mon coup parce que beaucoup de personnes voient justement, au contraire, ce film, semble-t-il, comme l'application d'un programme très... Sans surprise et sans... Peut-être. Moi, je suis mauvais juge. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas ce que j'ai essayé de faire. Mais je peux pas dire, c'est... Enfin bon, chacun voit...
C'est-à-dire qu'il y a le parti pris quand même de la fiction, faut jouer le jeu ou pas. Et à mon avis, il y a de la mauvaise foi. J'ai lu, bon, par exemple, l'article de Debecq dans Les Cahiers. Moi, ça m'a profondément irritée parce que je trouve qu'il prend les spectateurs pour des imbéciles. Je veux dire, on sait bien que c'est de la fiction.
Dans le nouveau numéro des Cahiers, là, vous l'avez pas vu, qui est paru, non. Je pense, aujourd'hui, il y a de nouveau, c'est Rancière, cette fois, qui parle de nous, et c'est de façon plus intelligente que Debecq, mais pour dire en gros quand même la même chose. Lui aussi, là, il l'a ressenti comme quelque chose de trop programmé, de trop qui ne réussit pas justement à sortir de ses points de départ tragiques. Lui, il le voit franchement en fonction de la plus que nous ne l'avons fait, en fonction de Electra et Orest, etc. Et Giste. Bon, c'est vrai que ça nous a aidé. Et en même temps, on a essayé de pas s'enfermer tout à fait dans cette histoire-là.
Moi, je trouve qu'il y a quand même une logique interne qui devient nécessité et qui prend de la valeur dans le film et ce qui a fait... Pour moi, le film a été passionnant de bout en bout, exactement comme plutôt un film de langue.
Ça dépend de chaque spectateur. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ce que j'essaye de faire, encore une fois, on ne peut pas être juge du résultat, c'est justement c'est même pas un mélange, cette espèce de fusion de à la fois de la logique, c'est-à-dire donc une unicité, et de la liberté, oui. de ce qui est finalement ce qui nous arrive, ce qui arrive à tout le monde dans la vie quotidienne, où effectivement on a le sentiment, heureusement, du hasard, de la liberté, que finalement... Et puis, si on repense ensuite, après coup, à sa vie, ou soit en général, soit à tel et tel épisode, bon, ce qui frappe, c'est qu'effectivement, tout a été... c'est comme si quand même on avait suivi... un programme, et en même temps comme si c'était ce qu'on avait voulu, parce que ça, c'est une chose à laquelle je crois très profondément. J'ai mis longtemps à accepter cette idée, mais maintenant c'est que on a ce qu'on veut très exactement. Il faut très bien savoir ce qu'on désire, parce que malheureusement c'est ça qu'on aura. et que d'une certaine façon, je crois que Secret Défense raconte aussi un peu cette histoire-là. C'est là ce qu'elle désirait profondément, finalement, exactement et complètement, y compris la mort.
C'est un jeu dangereux qu'elle joue.
Ah bah oui, non, mais ça, elle est dans c'est sa vocation.
Et dans ce jeu dangereux, elle trouve l'être, si je puis dire. C'est pour ça
elle
que...
Elle trouve sa vérité, en tout cas. Enfin, c'est un sujet, c'est celui-là.
C'est pour ça que moi j'ai trouvé.
C'est pourquoi, effectivement, à ce moment-là, on reste en effet à l'intérieur du principe de la tragédie. Mais ce principe qui est aussi celui de la comédie, qui est aussi celui de toute histoire de fiction. Enfin, je veux dire, tous les grands romans, me semble-t-il, racontent plus ou moins cette histoire-là. Enfin, je veux dire, depuis quelques années, j'ai enfin réussi à me plonger dans Balzac. J'avais un grand complexe par rapport à Balzac, parce que je faisais des films comme Paris j'appartiens qui piquaient le titre à Balzac, ou Un août qui donc partait de l'histoire des 13, et en fait j'avais rien lu, je connaissais.
Les... Paris nous appartient, c'est un titre de Balzac, mais
c'est pas un titre, c'est la fameuse phrase de Rastignac à la fin de Un août de Paris, c'est une variante sur Un août de Paris, enfin je veux dire.
C'est suivi du Peggy, Paris n'appartient à personne.
Voilà, mais ça justement, après j'avais retrouvé ça, comme j'avais beaucoup lu ce Peggy. C'est le premier livre de Peggy sur lequel j'étais tombé, Victor Marie Comte Hugo, que j'avais beaucoup lu. Ça m'est revenu après. Donc il est possible que le titre, en effet, c'était Souvenir inconscient de Peggy. Mais consciemment, on est parti, je me souviens très bien, avec des amis auxquels travaillais, avec. En se disant, il faut qu'on trouve un équivalent à la phrase de Rastignac. Et puis on a trouvé ça.
Alors ça m'explique mieux.
Et c'était Romer qui me parlait. Ah oui, non, mais même bien avant, je veux dire, quand je l'ai connu au début des années 50, dès ce moment-là, Romer était très grand balzacien et dostoïevskien. C'était vraiment les deux grandes références, c'est Balzac et Dostoïevski, ils m'en parlaient tout le temps. Et puis j'arrive pas, je faisais des efforts, j'entends, j'arrivais pas, ça me tombait des mains. Enfin, c'est seulement depuis une vingtaine d'années que je commence peu à peu, maintenant j'en ai eu pas mal. Je sais pas pourquoi.
Après, la belle
je suis pas. Ah non, la belle noiseuse, non, là j'avais. Oui, j'en avais lu pas mal. Non, ça, je vous ai dit depuis une vingtaine d'années.
Toute l'œuvre de Balzac. Bon, par conséquent, je ne vois pas de quel secours je peux vous être, puisque finalement la connaissance qu'on a de l'œuvre de Balzac, elle est donnée avant toute chose par Balzac. Oui. Maintenant, autre question, la seconde question qui est la plus délicate. Mais là, je crois que finalement, nous ne connaissons pas grand-chose. Quels événements réels ont pu conduire Balzac à imaginer cette société secrète. Tout est rien. Tout, puisque la société secrète, ça existe. Ça existe au temps de Balzac, ça existe maintenant, ça a toujours existé. Et il est certain qu'il s'est inspiré là de la réalité, comme il s'en est inspiré dans ses autres œuvres. Il fait souvent allusion à certaines sociétés en particulier. Par exemple, le Carbonari. Également à la société du champ d'asile, qui est une société philanthropique d'aide à des réfugiés politiques qui devaient s'installer aux États-Unis. Mais est-ce qu'il a vraiment existé une société occulte telle que les 13, c'est-à-dire qui était faite dans les intérêts particuliers de chacun de ses membres et non pas dans un intérêt général? Enfin, une société qui manquait, si on peut s'exprimer en termes modernes, de support idéologique en fin de compte. qui était faite uniquement pour favoriser les égoïsmes des vrais. Est-ce qu'une telle société peut exister? Est-ce qu'il y en a des exemples dans l'histoire? En tout cas, ce n'est pas à moi de répondre. Parce que même dans les sociétés criminelles, je pense qu'il y a tout de même une idée derrière. Une idée ou une nécessité. D'ailleurs, il y a un passage, je voudrais vous lire ce passage, je ne sais pas si vous avez lu ce roman, L'envers de l'histoire contemporaine. Vous n'avez pas lu. En fin de compte, peut-être est-il un peu décevant à l'égard du titre. En réalité, il n'est pas tellement question de l'histoire contemporaine. Cela dit, son intérêt est autre. Précisément, son intérêt est beaucoup plus grand par rapport à la question que vous me posez, aux 13. Non pas que ce soit un prolongement de l'histoire des 13, mais nous avons comme, pour reprendre l'expression de Balzac, comme l'envers ici, dans ce livre, l'envers de l'histoire des 13. C'est une association qui est exactement inverse. Alors que l'association des 13 est faite pour le mal, enfin, pour le vice, disons, et pour la satisfaction des intérêts personnels et égoïstes de chacun de ses membres, la société, l'association plutôt, et cette, comme pour reprendre également les termes de Balzac, hein, le but du personnage est de substituer à la conspiration permanente du mal une sorte de conspiration du bien. Et pour faire le bien, les personnages emploient des procédés de conspirateurs qui sont assez voisins des procédés des 13. Et d'ailleurs, le mécanisme, si vous voulez, de la façon dont agissent les 13 est plus facile à connaître d'après l'histoire, d'après l'envers de l'histoire contemporaine, où c'est décrit de façon minutieuse, que d'après les 13 eux-mêmes. Mais alors, ce que je voulais vous lire, c'était un passage dans lequel Balzac dit tout le bien qu'il pense de l'association. Et qu'est-ce que c'est pour lui l'association? L'association, alors c'est Balzac que je lis à partir de maintenant, l'association, une des plus grandes forces sociales et qui a fait l'Europe du Moyen-Âge, repose sur des sentiments qui, depuis 1792, n'existent plus en France où l'individu a triomphé de l'État. Par conséquent, cette idée de l'alliance, d'association, de l'union tenait profondément à cœur à Balzac. Est-ce qu'il a été influencé par son père, qui, comme vous le savez, je suppose, appartenait à la franc-maçonnerie? Est-ce qu'il a été par cette espèce de climat de conspiration, d'association de toutes sortes qu'il y a eu en France et dans le monde, à la fin de l'Empire, au début de la Restauration, en particulier par la charbonnerie? La charbonnerie qui est une... qui descend du compagnonnage, de même que la franc-maçonnerie. Alors, ce qui, ici, dans votre question, enfin, la façon dont je pourrais répondre à votre question est la suivante, c'est que dans l'histoire des 13, nous avons une association qui ressemble encore un peu trop à ces associations de brigands qui étaient dans les romans à la mode et dans les premiers romans de Balzac. Alors que peu à peu, à mesure que son œuvre évoluera, nous trouverons des associations qui ne sont pas faites pour un intérêt particulier, mais pour un intérêt général, et qui correspondent aux associations existantes. Car, en fin de compte, l'histoire nous montre que ces associations-là sont nombreuses. Bon, nous voilà bien loin peut-être de l'histoire des 13.
ni Fantômas, ni Juve, ni Fandor, mais bien l'histoire des 13 qui vient se nicher ici dans cette émission consacrée à Secret Défense et où Jacques Rivette faisait un petit détour par Balzac dont il a entrepris la lecture, enfin.
Avec Outouane, quand même, il y a le professeur Romer qui est interrogé par Léo.
Là, encore une fois, quand on a tourné Out, j'avais juste lu la préface, les quatre pages magnifiques de la préface. Là, il s'est trouvé sous l'Empire et dans Paris, là, 13 hommes également animés, enfin, ce que vient lire Jean-Pierre Léo à Lonsdale, là, etc. Là. Et puis ça me suffisait amplement. Le reste, j'ai lu Ferragus pendant le montage. Et La Duchesse de Langeais, j'avais lu le début, puis j'avais arrêté. Et je l'ai seulement lu il y a 15 ans, La Duchesse de Langeais. Ouais. Et La Fille aux yeux d'or.
Oui, non, mais de toute façon, lire Balzac,
c'est dans oui, parce que parce que très souvent, je pense aussi que Balzac raconte cette histoire-là. Enfin, je veux dire, ou Dostoïevski, enfin Raskolnikov, par exemple, c'est quelqu'un qui devient peu à peu ce qu'il avait désiré profondément. Ça raconte ça. C'est une idée de destin, mais que chacun se fabrique à soi. Chacun se fabrique son destin. Bon, je ne suis pas le premier à dire ça, c'est un lieu commun, mais c'est un lieu commun qui m'a l'air d'être assez... de ne pas être faux.
moi, je trouve que dans Secret Défense, il y a donc... le temps est... Enfin, je dirais que c'est un film court pour Jacques Rivette. Maintenant, ça serait bien qu'on parle de la durée quand même des films, non? Alors on n'en parle pas. Mais parce que je trouve que là, le film est très dense, avec des moments quand même très, très dilatés. Bon, le moment du voyage, il y a des moments très intenses. Je veux dire, il y a la précision, la minutie du geste au départ, avec un lieu très déterminé, le laboratoire, la laborantine, des gestes très précis. Et puis on injecte véritablement, vous injectez.
Mais ça, effectivement, c'est resté un peu vague. C'était beaucoup plus précis. Les chercheuses de pointe, même, elles, dans une équipe de.
Oui, mais quand elles travaillent sur l'ADN, ça se voit que c'est la biochimie et que c'est dans la recherche.
On a tourné. Exactement, Pierre et Marie Curie, oui. Dans l'étage du service, c'est marqué d'ailleurs au générique de fin, le service d'immunologie. Professeur Friedman, qui est, autant que je sache, en France, à l'heure actuelle, et son service, les personnes les plus avancées dans ses recherches d'éventuelles immunologies, justement, anticancéreuses. Bien sûr, on n'a pas fait faire à Sandrine des choses trop complexes. Parce que...
les gestes de la laborantine, donc les chercheuses, bon, sont très précis, et puis on injecte tout d'un coup cette histoire... qui est une ténébreuse affaire, on peut dire ça comme ça, avec la mort du père, la suspicion qui est mise sur comment le père est-il mort, et puis on part dans un voyage, dans un très long voyage, et il y a des contrastes quand même entre le lieu qui est le laboratoire, qui est très précis, des gestes très précis, minutieux, et puis un temps assez ramassé quand même, et puis une grande, non pas parenthèse, mais le film prend, je dirais, un envol différent avec à partir du moment où elle décide de partir, qui m'a fait d'ailleurs beaucoup penser à Marnie sur le moment, quand elle fait ses bagages.
Ça c'est évident que... Et je crois qu'il est derrière beaucoup, beaucoup de moments de ce film, même qu'on y pense plus ou moins clairement, parce que avec Pascal, on les a tellement vus, ces films-là, et ils ont tellement nourri notre idée même du cinéma. Alors des films comme... Marnie, je pense qu'effectivement, les deux auxquels on a plus ou moins clairement pensé, c'est Vertigo et c'est Marnie, c'est évident, c'est...
Mais
on peut aussi bien penser à comment il s'appelle, North by Northwest.
Oui, les lunettes dans la gare.
Oui, c'est un vieux truc, les lunettes, mais enfin, effectivement, ça vient de partout, ça. C'est, je crois que c'est pas Hitchcock qui l'a inventé. Lui-même le reprenait, parce que moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ancien que d'avoir vu justement, on me dirait, il y a Katharine Hepburn fait ce jeu de scène-là dans tel ou tel film, je dirais, c'est très... C'est...
Il y a Jim Turner dans un film de Stahl qui met des lunettes noires.
Alors, c'est possible.
Mais c'est une tueuse aussi. Une sacrée tueuse.
Oui, non, mais c'est le côté, le côté de lunettes noires. Oui, ça.
Péché mortel. Oui. Mais...
Ah oui, je me souviens. Oui, ouais. En effet. Oui.
Elle a des lunettes noires, mais pas du tout dans le même contexte.
Oui, elle les met après, au contraire.
Elle les met après.
C'est ça.
Elle les met après, dans la deuxième partie. Elle devient plus vénéneuse encore.
C'est ça.
Avec ses lunettes noires. Mais dans la mort aux trous, c'est quand même un peu ironique quand il y a les lunettes pour Cary Grant.
Oui, c'est un gag. Hein.
Voilà, je trouve que c'est un gag. Et là, quand même, parce que...
Bah là, c'était un gag aussi dans mon esprit. Et puis, comme Sandrine l'a joué, ça devient quelque chose de... qui reste dramatique. Enfin, parce que c'est le caractère de Sandrine d'être... elle est profondément grave et sérieuse.
Elle
est pas...
Elle donne de l'intensité dramatique à ce geste, oui. Mais l'ironie était là parce que moi quand j'ai vu cette séquence...
Était dans mon esprit, oui.
Moi quand j'ai vu la séquence, ça m'a amusée et cet amusement n'a pas été à l'opposé de la gravité du moment incarné par Bonheur. Quoi. Donc j'ai trouvé que c'était
bien que ça jouait sur les tableaux. Ce qu'on a... Enfin, encore une fois, c'est des choses qu'on souhaite et si ça marche, tant mieux. On a envie que le spectateur soit à la fois avec le personnage, bien sûr, mais en même temps un petit peu en retrait, pas tout à fait, pas collé à lui, ça joue pas sur. Et encore une fois, donc là, on est plus près d'Hitchcock que de quand même de Rossellini, qui lui, veut davantage plonger dans la morée, dans Stromboli.
Avec Rossellini, on n'échappe pas, à mon avis, à une émotion qui envahit beaucoup plus fortement que chez Hitchcock. Hitchcock est plus cérébral que Rossellini, me semble-t-il. Il est plus distant. Heureusement, parce que sinon, ce serait irregardable. Psycho serait irregardable s'il n'y avait pas cette
distance. Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que ça serait un film gore, peut-être. Donc, c'est pour ça que ça ne l'est pas, ou obscène. Effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était... Dans Secret Défense, on a la distance et on a l'implication dans le... Alors, le drame, dans la tragédie qui se met en place. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait, en tout cas. Je me pose des questions sur les écarts, comme ça, entre les spectateurs. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des subjectivités. Mais quand même, il y a quand même quelque chose qui parle dans le film.
Ça m'a davantage surpris que sur d'autres films. Ouais. Bon, un film comme Au bas fragile, on sait que c'est quand même plus... c'était normal. Ou que telle personne accroche sur une des trois filles, mais pas sur les deux autres, etc. Ouais, bon, ça, tout ça, c'était chose. Là, on avait le sentiment d'avoir... et nos premières projections entre nous de travail... Bon, bien sûr, c'est quand je montre comme ça, je montre à des amis proches. Par exemple, la première personne à qui j'ai montré, c'était Christine, justement. Évidemment, puisque j'étais très anxieux d'avoir sa première réaction. Elles étaient les réactions étaient plutôt les gens avaient le sentiment que ça fonctionnait. On a tout fait au montage, c'est même un des films où j'ai le plus resserré. On a coupé plus de 10 minutes, ce qui est très rare dans ce qui me concerne. Thank you.
la fin de cette première partie avec Jacques Rivette consacrée à Secret Défense, c'est bien, c'est pour maintenant. La semaine prochaine, vous entendrez la suite.